Vous écoutez France Inter, il est 19h23.
France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, quelles conséquences la guerre lancée par la Russie en Ukraine peut-elle avoir sur la présidentielle ici en France ? On pose la question, sachant que d'habitude, la politique étrangère influe assez peu sur les scrutins, les électeurs ayant plutôt tendance à se déterminer sur des enjeux nationaux. Peut-il en être autrement cette fois-ci ? C'est ce que l'on va voir avec nos invités, car la crise internationale qui fait la une de l'actualité depuis hier se déroule dans un pays limitrophe de l'Union européenne, Union dont la présidence tournante est actuellement assurée par la France. Or, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas déclaré officiellement. Quand va-t-il le faire ? Sans doute dans les prochains jours. Demain, le chef de l'État se rendra comme prévu au Salon de l'agriculture, mais il ne fera que passer. Les différents candidats ont adapté leur déplacement à la situation. Certains se livrent également depuis hier à des contorsions dans leurs déclarations sur la Russie. À votre tour de nous donner votre avis quant à l'impact ou pas de cette crise sur votre bulletin de vote. Avec nous pour en parler ce soir, plusieurs invités. Françoise Fressoz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste politique au journal Le Monde, on ne vous présente plus. Maxence Lambrecq, chef adjoint du service politique de France Inter, est avec nous. Bonsoir Maxence.
Bonsoir Claire.
Vincent Martini, rebonsoir.
Rebonsoir.
Professeur de sciences politiques à Polytechnique et Sciences Po Nice, chroniqueur pour l'hebdo Le 1 et pour l'émission Une semaine en France. C'est pour ça que je vous ai dit rebonsoir. Rebonsoir également à Michel Tchaninov, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine, mais aussi Dans la tête de Marine Le Pen. Vous êtes resté avec nous, vous êtes bien là, Michel Tchaninov.
Rebonsoir.
Merci, à tout de suite. Alors n'hésitez pas à les appeler pour leur poser toutes vos questions.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, direction Draguignan, c'est un Michel qui est en ligne. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, voilà, on vous écoute.
Par rapport à la question que vous posez sur l'incidence des événements sur le vote, moi effectivement, si j'étais prêt à voter pour certaines personnes, j'ai carrément changé d'avis.
Ah bon ?
Je m'interroge bien évidemment sur les candidats qui prenaient une discussion avec Poutine, en arguant en même temps du fait que derrière il y avait la mamie, les Américains qui voulaient jouer leur propre pour eux. Je me demande comment ces candidats sont à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont pas vraiment mal à l'aise, et si j'ose dire, ils ont vraiment bonne mine. Donc pour moi il y a eu un manque de clairvoyance évident.
Michel, donc, on peut se dire les choses clairement parce que c'est un peu énigmatique.
Disons que moi j'étais prêt, j'ai réfléchissais à voter Jean-Luc Mélenchon. Et quand je vois la position qu'il a eue, là je sais pas tout dernièrement, mais quand je vois la position qu'il a eue en soutenant donc plus ou moins Poutine, j'ai carrément changé d'avis. C'est clair que je donnerai pas ma voix à ceux qu'on puisse soutenir Poutine, même avant les événements tragiques.
En tout cas, ça va vous amener à réfléchir, c'est ce que vous voulez nous dire.
Ah oui, carrément. Oui, mais en fait, c'est tout réfléchi.
Merci. Merci, Michel, pour cette intervention. Françoise Fressoz, comment vous réagissez à ce que nous dit Michel?
Je pense que notre auditeur a mis le doigt sur un des changements qui peut se produire au cours de cette campagne présidentielle. C'est qu'au fond, effectivement, tous les candidats qui avaient plaidé pour le dialogue avec la Russie, je mettrais deux catégories. Il y a Jean-Luc Mélenchon, lui plaidait beaucoup pour ça parce que il est absolument hostile à l'alignement sur les États-Unis. Il veut que la France ait une voix singulière et donc il a d'une certaine façon magnifié la Russie en disant non, c'est pas l'agresseur. Et évidemment, il se retrouve face à un dictateur en fait. L'extrême droite, je pense que c'est pire que ça parce que je pense qu'il y a eu, outre le fait qu'il plaidait pour le non-alignement de la France et le dialogue, je pense qu'il y avait une vraie fascination du côté de Zemmour et de Marine Le Pen pour Poutine. Et donc tout ce camp-là, qui était quand même à l'offensive, hein, qui était assez fort dans les sondages, plus de 30% des voix, se trouve complètement à contre-courant, complètement pris au fond à rebours de ce qui plaidait. Zemmour disait « Je ne pense que Poutine n'attaquera pas l'Ukraine. Je pense que Poutine, on a eu tort avec lui parce que on l'a provoqué en voulant faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. » Tout est faux. C'est-à-dire, on a là affaire à un dictateur qui réfléchit en fonction de sa propre histoire, de sa propre volonté. Et là, ce camp qui a tellement plaidé en France se trouve non seulement à contre-courant, mais il peut être aussi accusé d'être, au fond, de faire le jeu des dictateurs. Et c'est quelque chose de très grave, et c'est ce que votre éditeur a pointé.
Alors, pour l'instant, c'est Michel qui nous dit ça. On va voir si, effectivement, le mouvement est plus large et si ça peut impacter, ce qui serait quand même quelque chose de nouveau, Maxence Lambrecht.
Oui, Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs bougé sur sa position. C'est vrai que le 30 janvier, il disait l'agresseur, c'est l'OTAN, l'agressé, c'est Poutine. Il a évolué, il est arrivé sur l'île de la Réunion là le jour de l'attaque en disant très clairement sans ambiguïté, je condamne et le seul responsable de cette guerre, c'est bien Vladimir Poutine. Donc on sent, et son communiqué le soir même était aussi assez clair. Donc on sent que lui a eu besoin de bouger, vous avez raison, Marine Le Pen et Éric Zemmour, eux n'ont pas été jusque-là et continuent à dire que il y a une partie de responsabilité du camp occidental de ne pas avoir répondu aux demandes de Vladimir Poutine depuis toutes ces années. Donc eux, c'est vrai, ont moins bougé dans leur discours le lendemain de la déclaration de guerre.
Vincent Martini, ce que nous a dit Michel, a priori c'est quelque chose qui n'arrive pas dans les campagnes présidentielles, qu'un événement international puisse faire changer d'avis à ce point-là, au dernier moment.
Alors déjà, il faut reconnaître que depuis la Seconde Guerre mondiale, à ma connaissance, il n'y a eu aucune élection présidentielle où un conflit aussi proche de la France et de l'Europe a pu être entamé à 42 jours de l'élection présidentielle. Donc déjà, il y a une singularité du moment. Il est inédit à ce niveau-là. Deuxièmement, il est inédit parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois qu'un pays européen est envahi. Un pays européen, en tout cas du continent européen, est envahi par la Russie. Donc là, il y a une double singularité. Après, il y a quand même eu des occasions dans lesquelles l'élection présidentielle a été impacté, a connu une influence des événements de politique internationale. J'en vois au moins deux. À la fin des années 70, l'élection de 1981, elle se fait dans un contexte en 79-80 dans lequel il y a quand même une crainte de la guerre dans le contexte d'un renouveau des tensions à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Là, ça nous rappelle justement des souvenirs quand on voit la politique expansionniste de Vladimir Poutine, la révolution iranienne. Il y a toute une série d'événements en fait qui créent un sentiment de un climat d'insécurité et dans lequel le président de la République va devoir se justifier parce qu'à l'époque, on l'accuse, François Mitterrand en l'occurrence, l'accuse d'être le petit télégraphiste des Soviétiques en lui reprochant justement d'être pas capable de défendre la voix de la France et d'être trop proche des Soviétiques. Donc en fait, cette situation, elle n'est pas totalement nouvelle. Et puis il y a eu évidemment d'autres cas comme en 2001, en 2002, le 11 septembre 2001 a eu une incidence sur la campagne de 2002 dont on pourra parler tout à l'heure.
Mais en tout cas, c'était pas au dernier moment comme c'était ça. Pas c'était moment. Pas du tout le même contexte. Michel Elchaninov, je voudrais bien avoir votre réaction sur ce que nous a dit Michel tout à l'heure.
C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de bulle qui éclate, c'est-à-dire que le poutinisme, c'était une sorte d'illusion séductrice pour une partie des Français et plusieurs candidats effectivement à la présidentielle. Alors on a parlé de Jean-Luc Mélenchon qui appuie sur le côté anti-impérialiste de gauche, sur le refus de l'alignement avec les États-Unis et qui devait être fasciné, je pense personnellement aussi, par la figure « grande gueule » entre guillemets de Poutine. Il y a les deux candidats d'extrême droite à des degrés divers, mais qui quand même épousait totalement la politique extérieure de Vladimir Poutine, et puis une partie de la droite traditionnelle qui a pu être séduite par le conservatisme sur le plan moral de Vladimir Poutine. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui explose littéralement, puisqu'on est face à une guerre d'ampleur, et on est face en même temps aux conséquences logiques du discours de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il a toujours développé un discours où l'Occident est à la fois décadent et agressif, l'Europe est faible, les Américains veulent toujours repousser la Russie dans un coin, un discours où finalement la Russie est un pôle mondial de conservatisme, et aujourd'hui, il n'a fait qu'en appliquer les conséquences en attaquant l'Ukraine aussi violemment. Et donc là, c'est sûr qu'il y a une sorte de hiatus informationnel qui se passe dans l'esprit de pas mal de candidats, d'où ces contorsions, ces volte-face que vous avez évoquées au début d'émission. Donc je pense qu'il se passe quelque chose d'important, puisque voilà, on était en face d'un nuage de séduction, et aujourd'hui, le nuage s'est un peu dissipé, et on voit la violence d'une agression d'un pays sur un autre.
Merci Michel Elchaninov, on reviendra vers vous tout à l'heure. On va repasser au standard. François est au bout du fil. Bonsoir François.
Oui, allô, bonsoir.
Oui, vous souhaitiez peut-être réagir à la situation actuelle et nous dire si pour vous ça change quelque chose ?
Oui, mais donc j'avais une question et une suggestion. Ma question est la suivante. Compte tenu de la gravité de la situation géopolitique, qui ne va pas s'éteindre dans les semaines à venir, même si la Russie arrive à mater l'Ukraine très rapidement, est-ce qu'on va être dans une situation d'équité pour tous les candidats à la présidentielle? Mon intuition est que c'est plutôt non, et donc ma suggestion, ce serait de reporter les élections présidentielles à la rentrée pour laisser le président gérer cela de manière sereine et garantir, sur un deuxième volet, l'équité entre les différents candidats une fois que les choses seront, je l'espère, rentrées dans l'ordre.
Merci beaucoup François pour cette question. Vincent Martini, on en a reporté les élections, mais c'était le Covid, hein, c'était pas tout à fait la même chose.
Oui, exactement. Ce qui est très compliqué pour le report d'une élection présidentielle, c'est qu'il faut un certain nombre de circonstances prévues par la Constitution. Et notamment, éventuellement, la menace sur l'intégrité nationale. Bon, il y avait vraiment un cas particulier avec le Covid. Je suis même pas sûr qu'on aurait pu repousser l'élection présidentielle pour cause de Covid, par exemple. C'est pas la même chose de repousser un scrutin qui n'est pas directement inscrit dans la Constitution et un scrutin comme l'élection présidentielle qui est prévu par nos institutions. Donc en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire ça. Même si on le souhaitait, il faudrait des raisons très très sérieuses, et encore une fois, probablement l'intégrité des frontières, la menace, etc. Je crois qu'on n'est pas dans une situation comme ça, donc c'est peu probable.
La question de l'équité, Françoise Fressos, que pose notre
auditeur.
Alors
moi, je tournerais le sujet autrement. Je trouve que la campagne présidentielle, jusqu'à présent, elle était assez décevante, parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets qui apparaissent, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, assez surréalistes. On a énormément parlé du grand remplacement, on a énormément parlé de la crise identitaire, on a énormément parlé du pouvoir d'achat avec une inflation de propositions qui d'ailleurs n'imprimait pas tellement, et tout d'un coup nous tombe sur la figure
un vrai événement sujet
d'une ampleur, mais qui nous concerne totalement, c'est-à-dire est en jeu la souveraineté de la France, la souveraineté de l'Europe, le combat des démocraties contre les dictatures, c'est-à-dire ce sont vraiment, à mon avis, des sujets extrêmement présidentiels. Donc plutôt que de plaider pour le report de l'élection, moi je plaiderais plutôt pour qu'il y ait des débats organisés avec le président de la République, avec les candidats, sur les sujets absolument majeurs qu'on est en train de vivre. Et là, je pense que la campagne présidentielle prendrait une autre ampleur et le citoyen pourrait vraiment traiter en toute connaissance de cause quels vont être les enjeux des prochaines années, parce qu'on a déjà subi depuis 2 ans une crise sanitaire qui a montré à quel point on était vulnérable sur le plan industriel, sur le plan sanitaire, et que là, si on pouvait avoir, en l'espace d'un ou deux mois, des confrontations entre les candidats en disant « voilà, compte tenu de la situation, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Je pense qu'on aura un débat présidentiel de grande qualité.
Le sujet va peut-être s'imposer de lui-même, effectivement, Maxence.
Ouais, les propositions des chaînes de télé et de radio sont déjà sur la table, évidemment, mais du côté de la Macronie, c'est pas du tout envisagé pour le moment. Il considère que Emmanuel Macron n'a pas à descendre dans l'arène, il doit rester président jusqu'au dernier quart d'heure. Les éléments de langage sont très clairs et répétés à l'envi, et que ce genre de débat amènerait une sorte de vulgarisation de la parole présidentielle. Emmanuel Macron compte pas faire campagne comme les autres. Il compte rester.
Mais lui, il a même pas besoin de se mettre dans un débat là. Il fait son travail de président.
Et en plus, petite subtilité, son temps de parole ne sera pas décompté quand il évoquera toute l'actualité internationale. Ça, c'est clairement dans les règles du CSA. Le temps de parole du président de la République comme président de la République n'est pas décompté. Or, évidemment, cette campagne sera encore rythmée par potentiellement d'autres allocutions. Et en effet, l'équité, ne serait-ce qu'en temps de parole, ne sera pas respectée.
Il y a Michel Tchernyov qui veut réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Françoise Fressos?
Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'une élection présidentielle, ça intéresse les citoyens quand il y a un grand récit, quand il y a une vision du destin d'un pays, son histoire, de ce qu'on appelle son récit national. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que Vladimir Poutine, qui développe un récit national depuis des décennies, bon, qui est un peu paranoïaque, puisqu'il consiste à dire que tout le monde en veut à la Russie, qu'elle doit se défendre, etc., remet cette question du récit national sur la table, finalement. Et se positionner par rapport à la Russie, aux grands enjeux sur la démocratie, sur le leadership, sur les relations entre États, etc. Je trouve que ça permet de reposer effectivement des enjeux qui sont fondamentaux, qui vont toucher aussi à des questions concrètes d'arrivée de migrants d'Ukraine, sur des questions de sociales et économiques qui vont être entraînées par la guerre. Donc Donc je crois que finalement, cet événement dramatique, il peut faire repartir une réflexion, une discussion démocratique autour de ce que doit et de ce que peut être la France et l'Europe, qui est parfaitement saine et légitime.
Merci beaucoup. On repart au standard et on va à Marseille cette fois-ci. C'est Patrick qui nous appelle. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bon, d'abord vous dire mon émotion par rapport à tout ce qui se passe en tant que père et grand-père, et mon attachement à la démocratie. Je m'interroge quand même, parce que je vous entends, je vous écoute tous les soirs, là, je suis assez surpris d'entendre que nous sommes dans une situation terrible de guerre en Europe. Et je me pose des questions, faut-il attendre une catastrophe pareille pour poser la question d'un vrai débat à l'élection présidentielle? C'est le premier point.
Ah ben,
deuxièmement,
oui, Patrick.
Moi je suis assez étonné d'entendre des gens éminents, intelligents sur votre plateau, considérer que Jean-Luc Mélenchon a une position pro-Poutine. Moi j'ai écouté ses interventions en 2014, en 2017. Actuellement, ça fait des années qu'il met en garde sur les déséquilibres qui existent en Europe, et y compris, alors on peut partager ou pas, son inquiétude par rapport à l'OTAN. OTAN que même le président Macron considère une organisation qui ne fonctionne pas. Moi, chacun a ses idées, mais on ne peut pas faire le procès de Jean-Luc Mélenchon sur cette question. On l'aime, on l'aime pas. Mais ce n'est pas un partisan de Poutine, c'est un partisan d'une politique de non-alignement comme l'a été le général de Gaulle, je pense. Et je me demande si vraiment cette façon de traiter Jean-Luc Mélenchon va faire bouger les lignes le concernant. Je ne pense pas.
Merci Patrick. En tout cas, le débat est entre vous et notre premier auditeur. Hein. On peut dire ça, Maxence Lambrecht.
Ça participe de la campagne, évidemment, que les adversaires de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne électorale continuent d'écrire Jean-Luc Mélenchon comme un admirateur de Vladimir Poutine. Ça participe du débat, tout comme les déclarations d'Éric Zemmour sont toutes ressorties par l'équipe de Valérie Pécresse hier, quand il disait que c'est un patriote russe qu'il admirait, etc. Maintenant, le sujet central de cette campagne, ça devient l'attitude à l'égard de l'OTAN, du Kremlin, la situation étrangère. Et donc, c'est aussi amené à ressortir des tas d'archives. Et en effet, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon dit « Quand j'ai été en Russie, je n'ai pas été voir Poutine, mais son opposant. » Et les insoumis s'en défendent et se sont énervés tout à l'heure à l'Assemblée nationale contre les socialistes sur cette question.
Ça prouve qu'il y a un vrai débat, Françoise Fressos. Hein,
moi, ce que je pense quand même sur Mélenchon, c'est quand on reprend toutes ses déclarations, au fond, il décrivait la Russie comme la victime du camp occidental qui l'agressait en voulant absolument faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. En fait, là où je trouve que le raisonnement est biaisé, c'est qu'au fond, c'est l'Ukraine qui cherche à se rapprocher du camp occidental, c'est l'Ukraine qui demande à rentrer dans l'OTAN, et c'est l'Ukraine qui demande à être dans le camp démocratique et le camp des libertés. Donc, le discours consistant à dire que c'est l'OTAN et les États-Unis qui agressent la Russie, je pense que c'est difficilement audible.
Vincent Martini.
Sur cette question, il faut un peu remonter en arrière. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon d'être proche de Vladimir Poutine. On se souvient en 2017 que la campagne avait déjà beaucoup tourné autour des positions de Jean-Luc Mélenchon sur la guerre en Syrie et l'intervention russe en Syrie. Et à l'époque, déjà, une partie des électeurs sociaux-démocrates étaient divisés sur la question de pouvoir voter pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils considéraient que sur les questions internationales, ses positions étaient incompatibles avec celles des autres électeurs sociaux-démocrates. Donc en tout cas, on sait que, à tort ou à raison, c'est un élément qui divise le camp de la gauche depuis un certain temps et que Jean-Luc Mélenchon prend des positions hétérodoxes sur ces questions, en tout cas, qui ne sont pas en ligne avec les autres candidats de la gauche. Mais ce que je voudrais dire de manière plus générale, c'est qu'on a le sentiment sur ces questions qu'il y a tout à travers le champ politique français une sorte de mauvaise compréhension de ce qu'on appelle l'héritage gaullo-mitterrandien. Vous savez, cette politique étrangère, on dit, voilà, on va être à équidistance entre les États-Unis et la Russie dans un contexte de guerre froide. Hein. Et en fait, on oublie que ce contexte de guerre froide n'est plus le même, que les États-Unis sont beaucoup moins interventionnistes. On voit bien la réaction de Joe Biden, qui est une réaction beaucoup moins ferme que n'aurait été celle, probablement, d'un de ses prédécesseurs dans les années 80. Et que Vladimir Poutine n'est pas, même s'il aimerait probablement l'être, exactement un leader soviétique, parce que la situation est différente. Et à ce titre-là, on ne peut pas réagir de la même manière dans un contexte qui a profondément changé. Et il me semble là que cette espèce de fantasme gaullo-mitterrandien qui reste fait mécomprendre, à mon avis, la réalité des relations internationales et des candidats dont il faut bien dire, je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon qui est un de ceux qui connaît le mieux. Mais la plupart des candidats connaissent très mal les affaires internationales. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors il y a des gens comme Valérie Pécresse qui parle russe, je crois qu'elle a une petite vision, on ne l'entend pas beaucoup d'ailleurs sur ce sujet, mais elle aurait une légitimité. Mais la plupart des candidats aussi, ils ont difficulté à faire face à ces questions parce que la vie politique nationale s'est recentrée sur elle-même. Donc tous ces éléments-là, c'est-à-dire une mauvaise compréhension d'un héritage politique, des divisions au sein de la gauche, et puis une difficulté des candidats à appréhender des questions parfois trop complexes pour eux, disons-le, eh bien, à mon avis, explique un peu cette confusion qui règne.
Est-ce qu'on peut dire un mot, Maxence Lambrecq, de la façon dont les différents candidats ont réagi par rapport à cet événement depuis hier? Est-ce qu'il y a des adaptations de campagne, de meeting, de visite? Comment ça se passe?
La première réaction, ça a été de Yannick Jadot d'aller à l'ambassade de Russie, manifester aux côtés des Ukrainiens, puis sur la place de la République hier soir, il y avait au moins 3000 personnes. Christiane Taubira l'a rejoint. Anne Hidalgo a aussi été place de la République. Anne Hidalgo a voulu maintenant orienter sa campagne autour de ça. Elle avait prévu un déplacement à Cergy ce matin. Finalement, elle s'est retrouvée au café Odessa avec des ressortissants ukrainiens aux côtés de Bernard Cazeneuve. Avec une, voilà, elle essaye d'organiser l'accueil des réfugiés. Et puis demain, son meeting de Bordeaux sera un meeting de soutien au peuple ukrainien et elle éclaire la tour Eiffel du drapeau bleu et jaune ce soir. Éric Zemmour continue sa campagne, meeting à Chambéry maintenu demain soir. Valérie Pécresse, comme si de rien n'était, visitait une réserve de chasse ce matin, était dans une usine de pulls cet après-midi. Elle continue, elle reconnaît elle-même qu'elle est un peu décalée, mais tout son agenda est comme ça, elle ne veut pas trop y toucher.
On peut juste dire un mot de la décision de François Fillon, elle est importante pour Valérie Pécresse?
C'était l'épine dans le pied de Valérie Pécresse depuis deux jours. Évidemment, tous ses adversaires se servaient de la déclaration de François Fillon, qu'il a fait le matin même de l'attaque en disant « ça faisait 10 ans que j'alertais les Occidentaux sur le fait que les Russes avaient des demandes qui n'étaient pas prises en compte ». Et cette déclaration-là, qui intervient vraiment comme ça, de but en blanc sur Twitter, a été utilisé par toute la Macronie. Tout le monde a retweeté en disant « il ne peut pas y avoir de mais ». Comment se positionne Valérie Pécresse? Et évidemment, la participation de François Fillon dans deux conseils d'administration de géants d'entreprises russes était problématique. Ce soir, dans une tribune au Journal du Dimanche, il annonce qu'il démissionne de ses deux mandats. Et ça a soulagé Valérie Pécresse, immédiatement, qui a immédiatement réagi et saluer sa décision. Elle essayait de créer de la distance en disant non, mais il n'est plus dans la vie politique. Il est temps quand même l'ancien candidat.
Donc on voit qu'effectivement cet événement très important impacte directement déjà maintenant la campagne électorale. On part en Auvergne, retrouver Jean-François. Bonsoir Jean-François, bienvenue.
Oui, bonsoir, c'est Jean-François à Saint-Martin-les-Aulnes dans le Puy-de-Dôme. Je vous ai déjà appelé hier, je deviens un habitué.
Oui, mais bon, il n'y a pas
donc
de souci.
Je vous félicite encore une
carte
fois.
Carte de finalité, c'est bien.
Voilà, très bien. Et ma question est très simple. En fait, je me demande si le choix du président de la République pour les prochaines élections présidentielles ne devrait pas aussi se faire sur la capacité du candidat à devenir éventuellement un chef de guerre dans les années à venir. Et comme je vous le disais hier, que ça ne devienne pas plutôt un Neuville-Chambernin. Voilà, c'était ma réflexion.
Vincent Martini, ça vous inspire, ça?
Il y a l'article de la Constitution qui dit que le président de la République est le chef des armées. Donc, à ce titre-là, c'est déjà prévu dans la Constitution. Mais il est vrai que Emmanuel Macron est assez à son aise dans ce genre de costume. Il adore le costume du tragique. On voit bien que lui, qui est quelqu'un qui est habité par l'idée des héros, du tragique de l'histoire, qui est très inspiré par ce romantisme de l'histoire, probablement qu'il est à l'aise dans ce rôle-là. Et c'est vrai que cela le distingue, non seulement de sa génération, évidemment, qui n'a pas connu la guerre, mais même de la plupart des générations qui sont ici en lice de ses concurrents qui viennent de mondes en paix. Et d'une certaine manière, il y a une difficulté de la vie politique à appréhender des guerres qui sont aussi près. On peut traiter des guerres comme des opérations extérieures, comme l'avait fait François Hollande au Mali ou son prédécesseur en Libye, mais ce sont des choses qui ne concernaient pas directement la France.
Et quand ça se rapproche, c'est autre chose.
Quand ça se rapproche, c'est autre chose, surtout parce que ça ressuscite des menaces dont on a entendu parler dans les livres d'histoire, pour les plus jeunes d'entre nous, de la guerre froide et des menaces nucléaires, parce que évidemment, ce qu'on sent derrière, c'est ça. Donc même si la question n'est pas de faire la guerre directement à la Russie, eh bien ça pose la question de savoir quels sont les moyens des démocraties face au pouvoir russe.
Michel Etchaninov, vous souhaitiez réagir?
Oui, effectivement.
effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron est à l'aise dans les crises, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que il faut aussi interroger son attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est-à-dire depuis un peu plus de 2 ans, depuis août 2019, il a proposé un redémarrage, une réinitialisation des relations avec la Russie, en disant il faut parler à la Russie, etc. Avec un projet de grande Europe, de l'Atlantique à Vladivostok, de plan de défense européen. Alors, il faut dire que depuis 2 ans, rien n'a abouti, puisque la volonté de Poutine, c'était que la France sorte de l'OTAN, ce qui était pas envisageable, mais que depuis 2 ans, Emmanuel Macron croit à une politique de dialogue avec Vladimir Poutine. On a vu lors des dernières semaines son activité diplomatique incroyable. Bon, il faut quand même dire qu'il n'a rien reçu, que Vladimir Poutine lui a sans doute menti, puisqu'il a tout de même annoncé et mis en place son attaque de l'Ukraine cette semaine après avoir parlé à Emmanuel Macron. Donc la question se pose aussi de savoir dans quelle mesure il faut essayer de nouer une relation spéciale, personnelle, franco-russe, et si en tout cas ce qu'a tenté Emmanuel Macron depuis 2 ans et demi n'est pas un véritable échec.
Françoise Fressos.
Alors, on peut l'analyser effectivement sur le. C'est un échec, hein, parce que et on l'a senti d'ailleurs à l'Élysée en début de semaine où ils ont vraiment cru jusqu'au dernier moment qu'un sommet serait possible. Ils pensaient avoir l'accord et puis tout s'est délité. Donc, il y a un échec. Mais je trouve que dans cette crise-là, ce qui peut-être donne un avantage à Emmanuel Macron par rapport à ses compétiteurs présidentiels, si on exclut le fait qu'il est président en exercice, c'est que. La scène qu'il décrit, il l'a déjà plantée d'une certaine façon dans tous ses discours européens. Et il l'a plantée en disant on est face à un ordre mondial très instable parce que les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'ils avaient auparavant. On va devoir en Europe se prendre en main. Il faut qu'on essaye de bâtir un nouvel ordre européen. Il faut qu'on dialogue exigeant avec la Russie parce que ça sera difficile, mais il faut aussi que nous, on se muscle. Et donc, il a développé, il y a quelques mois, le concept d'autonomie stratégique, c'est-à-dire du point de vue européen, les alliés, les adversaires, comment est-ce qu'on essaye d'exister. Et donc, la crise, à la fois, anéantit ses efforts de négociation, mais elle valide aussi l'analyse qu'il a faite. Et je pense que ça, c'est ce qu'on ressent aussi dans cette campagne présidentielle par rapport à tous les autres candidats, c'est qu'au fond, il a la hauteur de vue et la projection dans l'avenir, même si il n'a pas eu beaucoup d'avancées pratiques, il a au moins défini le cadre de cette espèce de dangerosité qu'on est en train de vivre. Et d'une certaine façon, quand vous posez quand même le sujet, ça rassure, parce que vous dites qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes, qui a compris ce qui se passait, vous voyez. Et je pense que ça lui donne un avantage important dans la campagne.
Quelqu'un qui a mouillé la chemise en plus, on peut dire ça.
Oui, bien sûr, mais ce corpus, vous avez raison, François Fressos, un ministre m'en parlait ce midi en disant « c'est bon en fait, notre programme, on l'a déjà, et on n'a pas besoin d'écrire une seule ligne en plus. Notre programme... C'est au-delà du programme, mais ce cadre qui a été posé, cette volonté de construire une Europe de la défense et de replanter la souveraineté comme au centre de son corpus. Bref, tout ça est déjà là, et c'est cette continuité-là, de toute façon, qu'il va proposer aux Français en déclarant sa candidature la semaine prochaine de manière très sobre. Et c'est cette attitude, plus l'attitude du président protecteur qu'il avait pendant toute la crise Covid et pendant toute l'épidémie, pendant ses 9 allocutions aux Français, « je vais vous protéger, je vous protège ». Il a répété exactement ces mêmes mots lors de son allocution avant-hier.
Donc c'est la semaine prochaine de manière très sobre.
C'est la semaine prochaine de manière très sobre, sa déclaration de candidature, donc le 4 mars, dépôt des parrainages, et il se dira candidat soit le 3, soit le 4.
Merci pour ces précisions. Michel Etchanidov, je sais que vous voulez réagir, mais je voudrais, juste avant de vous passer la parole, vous soumettre une question qui nous arrive sur franceinter.fr. Je pense qu'elle s'adresse en partie à vous, parce que c'est Agnès Marie qui nous dit « Peut-on dire que la réécriture de l'histoire que pratique Poutine fait partie de l'arsenal des dictateurs et remarquer que c'est quand même une pratique appuyée de Zemmour ?» Fin de citation. Je vous soumets ce message qui nous arrive.
Écoutez, je crois que les dirigeants démocrates aime présenter un récit national. Et évidemment, le problème, c'est quand ce récit devient une réécriture qui se fait contrairement aux faits, qui se fait à contrario avec les faits. Quand Vladimir Poutine dit Kiev est le berceau de la Russie, donc elle mérite d'y revenir, c'est évidemment un raccourci extraordinaire qui va à l'encontre de siècles d'histoire. Et cette formule d'ailleurs a été redite par Marine Le Pen en 2014. Donc effectivement, la réécriture de l'histoire pour en faire un outil de propagande puis de guerre est davantage le fait de dictateurs, puisqu'un dirigeant démocrate se plie normalement à la discussion démocratique et donc est respectueux des faits historiques. Je vous rappelle qu'en Russie, actuellement, la vérité historique est inscrite dans la Constitution, la défense de la vérité historique, et que des historiens sont mis en prison parce qu'ils vont parler du stalinisme d'une manière qui ne plaît pas à l'État russe en place. Donc, évidemment, la réécriture de l'histoire est un danger, et Vladimir Poutine, il a une idéologie à l'exportation, c'est-à-dire que les valeurs conservatrices, les valeurs anti-occidentales, la réécriture de l'histoire sont des choses qu'il exporte à l'étranger, et il trouve des porte-voix tout à fait exemplaires dans la figure d'Éric Zemmour, qui épouse à la virgule près les discours que l'on peut lire sur le site du Kremlin. Donc il est évident que la volonté de réécriture de l'histoire, aujourd'hui, c'est un enjeu de récit et de contre-récit, et c'est un enjeu démocratique majeur, et je pense que ce débat doit avoir lieu pendant notre campagne présidentielle.
Vincent Martini.
Ben oui, on constate quand même qu'il y a un tropisme très pro-russe de quasiment tous les mouvements d'extrême droite en Europe. À ce titre-là, Éric Zemmour est très fidèle, en fait, à d'autres mouvements qu'on retrouve, hein, à la fois en Allemagne, en Hollande ou parfois même en Scandinavie, de gens qui trouvent dans le président russe le symbole de tout leur fantasme. Évidemment, on a parlé de l'homme fort, mais je dirais au-delà de ça que le récit que promeut Vladimir Poutine, il correspond assez bien à une vision de ce que on pourrait appeler la culturalisation des relations internationales. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des très grandes nations, hein, dont la France fait partie, évidemment, et les nationalistes pensent que leur nation en fait partie, hein, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, et que ces nations ont des droits naturels, comme si c'était des personnes. Et ils ont des droits naturels sur les petits pays qui les entourent. Ils ont des sphères d'influence culturelle, et que ces sphères d'influence, eh bien, ils les légitiment qu'elles puissent souhaiter, on va dire, mettre en congruence les frontières territoriales et les frontières culturelles de ces nations. Et à ce titre-là, ils trouvent bah, évidemment dans Poutine un récit qui est exactement la projection de leur propre fantasme. Et ça, c'est pas seulement une question de réécriture de l'histoire, c'est vraiment une vision globale du monde. Vision globale du monde qui, encore une fois, pouvait se retrouver dans des gens, d'ailleurs, comme le général de Gaulle, qui n'était pas très éloigné de cette vision-là, mais c'était il y a quand même 70 ans.
On repart au standard pour un dernier appel, c'est Christelle, on va à Noisy-le-Sec. Christelle, bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir, bon, j'écoute souvent votre émission, mais c'est la première fois là, que j'appelle, donc je suis un petit peu stressée. Non, j'entendais tout
ça
à l'heure...
Ça va bien se passer, vous inquiétez pas,
oui.
Comme dirait un célèbre ministre.
Oui, le sujet, si c'est quel impact aussi pour les élections, c'est ça qui m'a fait réagir, c'est que moi... Clairement, je pense qu'il va y en avoir un. Et donc, je pense, j'écoutais tout à l'heure, et repousser les élections, pour moi, ça me paraît un des moyens, justement, d'avoir un petit peu moins d'impact. Là, on voit bien le président, il n'arrive pas à candidater parce que, de toute façon, il est très occupé. Ça va être encore pire ce qu'il est sur la scène internationale. Et clairement, pour moi, un des sujets que j'entendais, que la campagne était faible, qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets, tout ça, pour moi, il y a clairement un sujet qui dépasse tout, c'est la planète. On est au pied du mur. Et donc, oui, ça m'embête, moi, vraiment, là, tout ça. Enfin, pour repousser, j'en appellerai même à une pétition pour qu'on puisse repousser les élections, parce que je pense qu'il y aura un impact.
Merci beaucoup, voilà. Christelle. Et je précise que vous n'êtes pas toute seule. Laurent nous pose la même question et se désole qu'on ne parle pas d'écologie et que, du coup, ces thèses-là prennent le dessus. Maxence Lambray.
Repousser l'élection, mais jusqu'à quand? On l'a bien vu avec le Covid. On repousse et puis la situation ne s'est pas améliorée. Et puis, il y a toujours des bombes qui tombent en Ukraine. Et jusqu'à quand le mandat du président continue? Enfin, la Constitution fixe le mandat à 5 ans. Le 16 mai 2022, Emmanuel Macron ne sera plus président.
On va se dire que quand les sujets comme l'Ukraine arrivent sur la table, les sujets énergétiques, forcément, avec la crise, avec la question du gaz, on va poser aussi les vraies questions
parler d'environnement. Que ce conflit, si vous voulez, ce conflit résume toutes les problématiques important y compris l'énergie, parce qu'effectivement, si on va vers une très forte hausse du prix du gaz et du pétrole, On va parler énergie renouvelable, on va parler nucléaire, on va parler écologie. Donc je pense pas que... Moi je suis pas du tout sur le thème la campagne va être escamotée. Je pense que les candidats doivent exiger d'Emmanuel Macron, à partir du moment où il est candidat, qu'il y ait des débats de fond sur la crise internationale et les crises qu'on vit en ce moment.
Michel Etchaninov, si vous me promettez de pas faire trop long, je vous passe la parole.
Non, en deux mots, c'est vrai qu'on regrette toujours que l'urgence climatique soit pas l'un des sujets centraux d'une présidentielle. Je pense au film Don't Look Up, ne regarde pas en haut, on est dans le déni climatique. Là, j'ai envie de dire qu'il y avait un autre sujet qui était de l'ordre du déni, c'était Don't Look East, ne regarde pas à l'Est, et qu'aujourd'hui, eh bien, on voit la guerre à l'Est, et que ça fait partie, tout comme le réchauffement climatique, des grands sujets que nous avons affrontés. Je pense que nous devons, dans le temps que nous avons pour en parler, démocratiquement affronter le sujet de la crise écologique et évidemment le sujet aussi de la menace que fait peser une dictature sur le reste de l'Europe.
Merci beaucoup Michel Etchaninov. Vincent Martini, vous souhaitiez ajouter un petit mot?
Juste un mot pour dire que je ne partage pas totalement l'enthousiasme de Françoise Fressaud. Je crains que la campagne soit quand même très largement escamotée, que la principale victime soit le débat politique, parce que la tentation d'Emmanuel Macron, ça va être justement de surjouer le rôle du président au-dessus des partis, d'enjamber la campagne comme l'avait fait pour d'autres raisons François Mitterrand en 1988, et d'essayer de tout de suite se projeter après la campagne. Entre-temps, ça veut dire qu'au nom de l'actualité internationale, on risque de ne pas avoir de débat sur l'environnement.
Mais c'est aux autres candidats de l'exiger, moi je pense.
Oui, mais rien dans les institutions ne force le président de la République à le faire. Donc
oui,
le risque,
c'est qu'il ne
le fasse pas.
Je pense que s'ils prennent à témoin l'opinion et que le président de la République se défausse, là je pense que ça risque de lui nuire. Je pense que c'est ça l'enjeu des prochaines semaines, c'est qu'il y ait des débats, des affrontements, des confrontations sur le sujet majeur qu'on est en train de vivre.
Sans oublier peut-être la question sociale, la question des retraites, qui sont aussi de vrais sujets, qui devraient s'imposer peut-être dans une campagne. Je voudrais juste vous livrer, pour terminer, ce message qui nous arrive sur l'application France Inter ou franceinter.fr. Dans le contexte de conflits intra-européens, l'obligation du service militaire peut-il devenir un sujet de campagne électorale? On voit que les gens sont inquiets là.
Évidemment que le service militaire peut revenir dans la campagne, mais c'est possible. Hein, puis certains y réfléchissent sérieusement, oui.
Donc effectivement, ça peut devenir un sujet. Merci beaucoup à tous les quatre, Michel Etchaninov, Vincent Martini, Françoise Fressos, Maxence Lambrecq.